Peut-on aujourd'hui faire son métier de journaliste dans les pays en conflit? Et à quelles conditions? Peut-on promouvoir la pluralité culturelle dans des régions où l'on se bat? Peut-on ne plus poser les termes en fonction d'un choc de culture ou de religion et reconquérir la raison dans ces parties du monde? À toutes ces questions, la Fondation Anna Lindh répond oui. Elle décernait le jeudi 5 novembre, en présence de Son Altesse Sérénissime le prince Albert II et d'André Azoulay, le président de la Fondation, ces prix méditerranéens de journalisme à des jeunes professionnels qui ont travaillé cette année dans les pays de l'Union pour la Méditerranée. La lauréate du prix radio est une Française, Chine Labbé de France Culture. Elle s'est rendue dans les territoires palestiniens pour voir comment se construisait tout le corpus juridique palestinien. Rencontre avec Noëlle Fantoni.
J'ai fait un reportage en territoire palestinien cet été pour France Culture sur le droit dans ces territoires, à la fois l'aspect législatif, qu'est-ce qui existe en termes de loi dans ces territoires, et l'aspect plus humain de quel est le quotidien des avocats et comment ils essaient et d'exercer leur travail au jour le jour.
Comment construit-on le droit dans un territoire occupé?
C'est une très bonne question. D'abord, ce qui se passe, c'est que la Cisjordanie et Gaza ont une histoire d'administration successive tellement compliquée que le droit aujourd'hui est une espèce d'embryon, de mélange assez compliqué. C'est un droit vraiment multiple, pas du tout unifié. Donc déjà, ça complique les choses. Ensuite, il y a une autorité palestinienne, donc il y a un conseil législatif qui, en théorie, produit des lois, ce qui est le cas. Sauf que depuis 2006, Fatah et Hamas sont complètement séparés politiquement. Gaza est fermé, donc ils ne peuvent plus se parler que par vidéoconférence. Donc pour produire des lois, vous imaginez bien ce que ça donne, c'est pas très facile. Donc il y a des lois qui ont été produites, mais le droit pénal ou les droits fondamentaux n'ont pas été faits. Il y a une loi associative, une loi environnementale, il y a des choses qui sont faites petit à petit, sauf que le Conseil législatif ne fonctionne pas à cause de la situation politique. Donc c'est très compliqué.
Et quelle est l'existence d'un corpus législatif face à la loi de la guerre?
C'est une autre question, et c'est en cela que parler avec les avocats était très intéressant, parce que au départ j'avais cette idée, je voulais vraiment, pour moi ce qui était intéressant c'était d'étudier ce droit, et c'est très intéressant puisque c'est vrai que d'abord c'est fascinant d'avoir un droit qui est tellement multiple et qui n'a jamais été unifié, puisqu'on est dans deux territoires qui n'ont jamais été unifiés, et ensuite c'est fascinant de voir que le conseil législatif, il y a des membres qui sont en prison puisque c'est des membres du Hamas, c'est vraiment compliqué. Mais en fait, ce dont je me suis très rapidement rendu compte, c'était que l'aspect très intéressant, c'était surtout de parler avec ces avocats et de se rendre compte que leur principal problème, c'est juste les checkpoints et les limitations de circulation, puisque les avocates avec qui j'ai parlé, il y en a une avocate, Luna Horikat, elle est professeure maintenant, mais avant, elle était avocate à Ramallah et vivait à Jéricho. Et elle m'expliquait qu'une fois sur deux ou une fois sur trois, ou en tout cas, elle pouvait jamais prévoir, elle arrivait, elle prenait un taxi, elle arrivait à Ramallah, la ville était fermée, son client l'attendait, il est 9h et le procès commence, qu'est-ce que vous faites? Et c'est là qu'un avocat se trouve face à une situation terrible, ce qui est pour pouvoir faire son travail, d'exercer la loi, il doit essayer de trouver un moyen illégal de parvenir à son client, et pour un avocat c'est ce qui sans doute peut y avoir de pire, enfin c'est ce dont j'ai eu l'impression en parlant avec cet avocat, d'être obligé de briser la loi pour pouvoir appliquer la loi. Donc finalement, même s'il y avait un droit unifié, la situation fait que il n'y a pas possibilité de l'appliquer.
Quelles sont les difficultés que vous avez éprouvées pour faire ce reportage-là?
Alors, j'ai pas trop eu de difficultés parce que, en étant française, avec un passeport français, etc., pour moi, traverser les checkpoints, c'était très facile. J'ai pas eu de soucis du tout à ce niveau-là. Les difficultés que j'ai eues, c'est plutôt des difficultés personnelles de que choisir à mettre dans mon sujet. Où je plaçais mon objectivité, est-ce que j'étais sûre d'être totalement objective, est-ce que j'étais objective, mais est-ce que aussi j'étais fair, comme ils disent en anglais, c'est-à-dire finalement plus que l'objectivité, est-ce que j'étais vraiment, est-ce que je faisais justice au sujet. Et c'était difficile parce que je n'ai pas parlé à des Israéliens, mais non pas parce que je voulais pas avoir leur avis, mais parce que ce que je voulais montrer, c'était une plongée dans le quotidien de ces Palestiniens. Mais ça m'a réveillée la nuit après de me dire, ah, mais est-ce que j'ai bien fait mon travail de journaliste finalement, puisque j'ai pas parlé à des Israéliens? Est-ce que en laissant dans mes sons que j'ai gardés les Palestiniens parler de territoire occupé, ce dont un terme qu'on n'emploie pas en français, qu'on emploie en anglais, occupied Palestinian territories, mais en français on dit pas ça. Est-ce que c'était biased? Est-ce que c'était pas objectif de laisser ça? En même temps, je l'avais pas mis dans mon écriture, mais ça me semblait important de transmettre leur message et de faire passer ce qu'ils ressentaient. Donc j'ai eu beaucoup de travail sur moi-même et sur ce que je pensais être faire justice à ce sujet. Mais au niveau de l'accès du travail sur place, c'était très facile finalement.
Donc vous pensez qu'on peut tout de même, en tant que journaliste, faire son travail dans une zone de conflit aussi importante que celle-là?
Alors après, moi j'ai pas été à Gaza, j'ai pas été à aller à Gaza, c'est quasiment mission impossible aujourd'hui. J'ai pas non plus été à Hébron, j'ai été à Ramallah, à Boudis, en Cisjordanie, Jérusalem-Est. Enfin, c'est des territoires où c'est facile d'aller quand on est français, qu'on a un passeport français. Enfin voilà, j'étais dans des conditions assez faciles finalement. J'imagine que pour un collègue du Moyen-Orient, c'est beaucoup plus difficile ou. Je sais pas, mais pour moi c'était faisable. Mais je disais pareil, j'y étais dans un, c'était pas le mois où les Israéliens se retiraient de Gaza. C'était un mois où il y avait pas de, c'était cet été en juin, il y avait pas quoi que ce soit de particulier. Il y avait pas la guerre à Gaza, il y avait pas ce qui faisait que c'était faisable.
Quel a été le principe éthique qui vous a guidé?
Faire justice au sujet et essayer de oui, d'être neutre. J'aime pas tellement le mot objectif. C'est vraiment faire justice au sujet, parce que objectif, finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, si, on est à une quête d'objectivité, mais ça veut pas dire donner la même proportion à tout le monde. Ça veut dire étudier, écouter tout le monde et après faire justice au sujet. J'espère avoir fait justice au sujet.
Parmi les sponsors de la fondation Anna Lindt, qui veut rassembler les peuples de la région euro-méditerranéenne par la culture, il y a la COPEAM, un réseau de réseaux médiatiques qui lance des projets audiovisuels rassemblant à chaque fois plusieurs pays de la Méditerranée. Rencontre avec la secrétaire générale de la COPEAM, Alessandra Parisi.
COPEAM est une association professionnelle à but non lucratif qui a été créée en 1994 à Palerme par deux radiodiffuseurs publics et qui par la suite s'est ouvert à les grandes organisations aussi de l'audiovisuel et culturel de la région. Aujourd'hui, la COPEAM a parmi ses membres presque 130 opérateurs de l'audiovisuel et de la culture en Méditerranée, parmi lesquels 31 radiodiffuseurs de la région, avec le but, bien sûr, de développer les dialogues, le partage et l'échange. Et nous avons fait ça d'une manière très concrète, et surtout en basant notre action sur trois axes. La production, donc les produits télé et radio, la formation, et les dialogues, ce que nous appelons le dialogue, c'est une action d'organisation de séminaires, de conférences, toujours ciblées sur la Méditerranée et la coopération.
Les organismes que vous regroupez sont des organismes purement italiens ou de tout l'horizon de la Méditerranée?
Oui, bien sûr, c'est une association internationale. Donc nous avons bien sûr un noyau dur qui est composé par les radiodiffuseurs publics de la région, à partir du Portugal, en passant par l'Espagne, la France, la Suisse, l'Italie, le Balkan, la Turquie, le Machrek et le Maghreb. Donc, toutes ces radiodiffuseurs sont représentés dans la COPEAM. Nous avons aussi des associés comme les grandes unions, comme l'UR et l'ASBU, l'Arab Broadcasting Union. Nous avons aussi des associés comme l'FAO, l'UNESCO, donc les grandes organisations internationales, des opérateurs privés, donc des producteurs indépendants, et des universités, des régions aussi, des collectivités territoriales. Donc c'est vraiment un réseau des réseaux. Nous essayons de faire dialoguer, de mettre ensemble des gens qui travaillent dans les différents domaines.
Des Israéliens, des Palestiniens?
Il y a des Palestiniens. Avec Israël, on a des coopérations sur certaines actions. Et on espère bien qu'on puisse aussi développer une coopération plus étroite.
Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets des coopérations que vous avez pu réaliser ces mois derniers, par exemple?
Par exemple, cette année, nous avons gagné deux appels d'offres à l'Union européenne pour la réalisation d'un grand projet sur la récupération du patrimoine audiovisuel, donc qui s'appelle MedMem, L'idée, c'est de créer un portail gratuit pour l'accès à 4000 sujets méditerranéens en provenance des différents organismes partenaires de ces grands projets, chapeautés par l'INA et qui voient alors la situation de plusieurs pays, parmi lesquels Israël. Et nous avons aussi un grand projet qui s'appelle Euromed News. C'est le deuxième que nous avons remporté et qui est chapeauté par France Télévisions et qui voit la participation des différents partenaires arabes pour la production de news, magazines, documentaires. Ça, ce sont des choses concrètes. Nous avons aussi lancé la deuxième série d'une coproduction radio et une troisième série de coproduction télé qui s'appelle Interrive. Donc, ça fait beaucoup.
En quelle langue ces coproductions sont-elles parlées?
Donc, d'habitude, nous utilisons la logique du panier. Donc, chacun va produire dans sa propre langue et les autres vont traduire les produits qui sont produits par les autres.
Au projet maintenant ?
Nous avons plusieurs. Nous avons un grand projet qui est un grand portail par satellite qui s'appelle TerraMed. C'est l'idée de mettre ensemble une grande majorité de nos partenaires pour créer une vitrine de la Méditerranée par satellite. Donc la possibilité de mettre ensemble ces partenaires pour une grille de programmes à vocation méditerranéenne. Et nous sommes déjà en train de le faire. Il y a déjà 7 partenaires de ce projet. C'est France Télévisions, la télévision espagnole, la télévision italienne, la télévision algérienne et la télévision tunisienne, Arte et Malte. Et donc, c'est déjà sur satellite, ça. On a une heure de production par jour et vous pourrez même aller voir qu'est-ce que sont notre intention.